Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que j'ai des mauvaises nouvelles pour vous aujourd'hui. Ben imaginez-vous donc que selon, on va en parler plus tard à l'émission, mais selon Météo Média, ben on n'est pas sorti du bois. L'hiver va encore durer pas mal longtemps parce qu'on est pris avec un phénomène qui s'appelle La Niña et qui joue un peu sur les températures et sur le temps.
Je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Ben oui, il y a seulement que les ours qui aiment ça, je pense. Je l'appelle l'ours maintenant, ça n'a pas de bon sens, Mathieu. Je suis désolé. T'as le droit d'aimer ça l'hiver. T'as le droit d'être bizarre. C'est correct.
Je ne dirai rien sans la présence bon, de mon...
De votre avocat.
Exactement.
Oui, alors tout ça pour dire par contre que, là, ça va être en dents de scie pour les prochains jours. Je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas une grande météo, mais c'est un peu partout pareil au pays. On a des réchauffements qui s'en viennent, des redoux. Il y en a un présentement dans l'ouest du pays, puis ça va se refroidir à nouveau, puis il va y avoir encore des précipitations. Alors, il faut s'armer de patience. Alors aujourd'hui à l'émission, on a le bonheur d'accueillir notre très chère Monique Kirouac, qui fait de la chronique aujourd'hui avec nous. Salut Monique!
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, oui, ça va bien. Ça fait un bout qu'on n'a pas travaillé ensemble, hein?
Oui. Ben oui, ça fait un bout de, je pense, cet été. Hein?
Je crois que oui. Je me semble que je n'ai pas remplacé le jeudi de l'automne, mais bon, il faut dire que la mémoire est une faculté qui oublie, puis plus on vieillit, plus ça oublie facilement.
Mais bon, c'est bon de se retrouver.
Mais ben voilà. Alors, on parle de quoi aujourd'hui avec toi?
Ben, cette semaine, j'ai retenu un article qui traite des représentations sociales du vieillissement et en découlant trois mythes sur la mobilité véhiculée. Mobilité véhiculée, bon, j'ai fait un petit jeu de mots.
C'est tout à fait approprié, oui.
Par la majorité des gens. On associe peut-être trop souvent cette étape de vie à la dépendance aux autres, à la perte d'autonomie, à la diminution d'activité. Mais comme le dit l'auteur de cet article, Sébastien Laure, qui est professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, bien, vieillir ne signifie pas disparaître de l'espace public. Non. Il s'agit de l'habiter autrement. Alors, je vais vous raconter quels sont ces trois mythes et, bon, les petites choses ou les grandes choses auxquelles on doit être attentif pour mieux vivre.
C'est intéressant qu'on parle de vieillissement dans cette chronique parce que moi, je reçois Marie-Hélène Vendette, qui est la directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, qui dévoile un projet qui s'appelle « Chère Jeannette » pour sensibiliser les personnes au mieux vieillir. Alors, toi, ça donne bien un peu comme discussion cette chronique et cette entrevue. Et on va aussi rencontrer l'artiste pluridisciplinaire Maxime Despomerleau qui va nous parler de son spectacle « Quand tu me regardes ». Et Dominique Tremblay revient pour nous parler du financement des athlètes pour les Jeux paralympiques, hein, parce que ça en vient, c'est la semaine prochaine. Et écoute, il y a des dates aujourd'hui, Monique, intéressantes dans l'éphéméride du jour. En 1802, naissait Victor Hugo. Probablement il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la littérature française, hein, Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Les Misérables qui reviennent d'ailleurs en tournée, une nouvelle version là, ici au Québec et en France. Ah, c'est quand même une grande date, 1802 aujourd'hui. Et puis, plus récemment, 1932, aux États-Unis, Johnny Cash qui naissait, si on se rappelle, à Walk the Line et tout ça. Donc, figure emblématique de la musique country et qui, lui, est décédé, si je me rappelle bien, en 2003. Et enfin, mon Dieu, l'homme dur, l'homme de droite, d'extrême droite, politique turque, Recep Tayyip Erdogan, hein, qui est actuellement président de la Turquie, et puis, qui est un bon chum d'un certain président au sud de la frontière. Alors voilà. On se reparle tout à l'heure, Monique?
Oui, à tout à l'heure.
Alors, on va en musique. Bon, ça a l'air que l'ordinateur, lui, aime pas. On y va.
Cinéma, lever les yeux pour la première fois. Une lueur au bout du doigt, endormie dans tes bras. Et puis plus rien, du jour au lendemain, un cheval noyé, une histoire sans fin. Les jujubes et le cinéma, ah. connais déjà. Dis-moi, te sentais-tu trop vieux? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Es-tu la même? As-tu croqué la pomme? J'ai aperçu des marques dans ton cou. Changer de maison et changer de nom. Oui, te donner trois reprises. As-tu trouvé, crois-tu avoir compris? Ce piège, on se vit sous la neige. Cette fois, les eaux se referment sur toi. Et moi, l'horizon, je le vois. Et je chante plus fort pour enterrer.
La chanson « Dis-moi, dis-moi, dis-moi » de Lou Adriane Cassidy.
Un petit tour de l'actualité aussi et des para-actualités. D'abord, éducation et laïcité. Le milieu scolaire québécois est en pleine tourmente avec l'application concrète de la loi 94 sur la laïcité. Alors que la presse rapporte le licenciement de 12 employés au centre de services scolaires des Mille-Îles dans la région de Montréal, Radio-Canada révèle que ce bilan n'est que la pointe de l'iceberg. À Laval, une quarantaine d'autres travailleurs sont en absence forcée sans solde. Au total, ce sont au moins 500 employés de soutien dans la grande région de Montréal qui risquent de perdre leur emploi s'ils refusent de retirer leur signe religieux. Cette vague de départ forcé qui touche des éducatrices et des techniciens en éducation spécialisée inquiètent les directions d'école qui craignent une rupture de services majeure en pleine pénurie de personnel. Plusieurs syndicats et associations de cadres réclament maintenant un assouplissement de la clause de droit acquis pour protéger ceux et celles qui ont été embauchés durant la période de transition législative l'an dernier. Alors, à titre de rappel, la loi 94 élargit l'interdiction du port de signes religieux à l'ensemble du personnel scolaire, incluant le personnel de soutien et les conseillers pédagogiques. La clause de droit acquis ne protège que les employés en poste avant le 19 mars 2025. Ceux embauchés entre cette date et le 30 octobre 2025 perdent leur lien d'emploi s'ils refusent de se conformer. Le réseau scolaire québécois affichait encore près de plus de 1100 postes de soutien vacants en novembre dernier. Et puis, dans la presse plus, un nouveau coup de sonde vient éclairer le débat sur l'immigration au Québec ce matin. Selon un sondage léger réalisé par l'Union des municipalités, une écrasante majorité de la population, soit 83 % souhaite que les travailleurs étrangers temporaires déjà en emploi puissent rester chez nous. Cet appui en hausse par rapport à l'automne dernier traverse toutes les tranches d'âge et toutes les régions de la province. Pour Geneviève Dubois, vice-présidente de l'UMQ, ces résultats confirment que les citoyens sont conscients de la vulnérabilité de nos entreprises face aux pénuries de main-d'œuvre. Le sondage révèle également que 77 % des répondants demandent au gouvernement fédéral de faciliter le renouvellement des permis de travail. Cet enjeu s'invite au cœur de la course à la direction de François Legault à la coalition Avenir Québec, où les candidats proposent diverses mesures transitoires pour corriger les effets de l'abolition du programme de l'expérience québécoise en novembre dernier. Le sondage donc a été réalisé en ligne du 20 au 22 février 2026 auprès de 1002 répondants et la marge d'erreur est de 3,1 % 19 fois sur 20. Le quotidien Le Devoir nous présente le récit de Daniel Couillard, un entrepreneur de 63 ans qui a choisi l'exil médical pour sauver sa santé. Souffrant d'une arythmie cardiaque sévère, l'homme s'est fait répondre par l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal qu'il devait patienter entre 6 à 18 mois pour une intervention chirurgicale essentielle. Refusant de voir sa condition se détériorer sous l'effet de médicaments lourds, il a déboursé plus de 20 000 $ pour être opéré en France, à Marseille, en fait, au début du mois de février. Son témoignage, devenu viral sur les réseaux sociaux, met en lumière les ratés d'une administration que M. Couillard qualifie de dysfonctionnelle, tout en saluant le dévouement du personnel soignant québécois. De son côté, Santé Québec reconnaît que la demande pour ces interventions spécialisées est en croissance constante, sans toutefois pouvoir fournir de délais précis pour ce type de cas complexe. Alors, l'intervention subie, c'est une ablation pour traiter une fibrillation auriculaire, une procédure qui ne peut pas être effectuée dans le secteur privé au Québec. Le paysage politique québécois se resserre considérablement à 7 mois des élections générales. Selon un nouveau sondage Palace Data pour l'actualité, le Parti québécois voit son avance fondre de 7 points, récoltant désormais 30 % des intentions de vote. Cette baisse profite directement au Parti libéral qui, sous la direction de son nouveau chef, Charles Milliard, grimpe à 27 % son meilleur résultat depuis l'été dernier. Si le PQ domine toujours chez les francophones, l'appui à la souveraineté est en net recul, avec 60 % des répondants qui voteraient contre lors d'un éventuel référendum. De son côté, la coalition Avenir Québec connaît une remontée modeste à 14 % portée par l'intérêt entourant la course à la direction de François Legault. Le sondage a été effectué les 21 et 22 février 2026 auprès de 1075 répondants, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 % 19 fois sur 20. Et puis une enquête de la presse révèle que plusieurs écoles juives privées de Montréal, largement subventionnées par l'État, ont reçu des militaires israéliens actifs ou retraités et à au moins 14 reprises depuis l'automne 2023. C'est des établissements comme les écoles secondaires Herzliak et Bialik ont organisé des rencontres pour présenter des parcours inspirants, entre guillemets, de soldats et tout cela en plein conflit dans la bande de Gaza. Si les écoles affirment que ces activités ne sont pas financées par les fonds publics, le ministère de l'Éducation rappelle que le code d'éthique impose aux intervenants une neutralité politique et une objectivité rigoureuse. Un suivi ministériel sera effectué pour s'assurer du respect de la loi, alors que le nouveau projet de loi 9 sur la laïcité pourrait venir resserrer l'encadrement de ces pratiques dans des écoles privées. Alors, l'entité gérant Herzliak et le Talmud Torah a reçu plus de 4,4 millions de $ en subventions provinciale pour l'année 2023-2024. Le projet de loi 9 déposé en novembre 2025 vise à renforcer la laïcité de l'État et pourrait restreindre les agréments des établissements dont les services reposent sur des préceptes religieux. L'école Bialik soutient que ces visites visent à commémorer les victimes des attentats du 7 octobre 2023.
toujours eu le cœur à bonne plage. Le roman laissé en une bonne main, si tu veux que je fasse. La chance croise pas souvent mon chemin. Fait que je fais juste me péter la face pendant que tu te fauches dans ton coin, si tu veux qu'on fasse. Toi tu m'haïs, mais moi je t'aime bien. C'est pas la vie que j'aurais choisi, ce serait mentir, dire que je la hais. On a eu du fort dans maudit, mais on s'est écorché aussi. Entre les bras qui finissent lundi, les billes qui nous coûtent le jeudi, les reins qui brûlent, le foie qui crie, j'ai investi sa fin de ma vie. Et viens donc faire un tour chez nous. Mandez à Péro, Zach, puis Will, comment que ça se passe à Saint-Félix. Et viens donc faire un tour chez nous. Viens voir ce qui se passe dans ma petite clique remplie de sympathie. Chaque shooter, ça gueule encore. Tant qu'à boire, on vide le bar. Nous autres, on sort jusqu'au Lascar. Quand ferme le bar, y'est pas trop tard pour boire la 24 qui est dans le char. Gauche et Rémi, on sort le fort. Soleil se lève, nous, on s'endort. Puis viens donc faire un tour chez nous. Mandez à Péro, Zach, puis Will, comment que ça se passe à Saint-Félix. Puis viens donc faire un tour chez nous. Viens voir ce qui se passe.
Arpin Lépine et sa chanson Saint-Félix.
Et là, on va faire un petit tour auprès de Monique Kirouac. On va parler avec Monique, donc, de déconstruire des mythes par rapport aux personnes vieillissantes, on va dire ça, comme ça.
Oui, exactement. Le titre de l'article de Desmartais, c'est « Habiter pleinement sa ville, trois mythes à déconstruire sur la mobilité des aînés ». Ça a été publié dans le site La Conversation le 18 février dernier. C'est un texte, oui, sur le vieillir, le vieillissement. Et il y en a plusieurs sur ce thème-là, si les gens sont curieux. Oui, il y a la mobilité, mais il y a aussi le logement, la santé. Enfin, c'est très riche comme dossier. Alors, comme professeur d'urbanisme à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, le professeur Sébastien Laure estime important de remettre en question les mythes autour des personnes aînées dans la ville. La recherche en aménagement et en études urbaines montre que la mobilité ne s'arrête pas avec la vieillesse. Elle se transforme, elle s'adapte, elle reflète l'inventivité et la résilience des parcours de vie des personnes et de leur réseau. Le premier mythe, avec la retraite, la vie devient tranquille. L'idée que la retraite signe l'entrée dans une vie immobile et ralentie est trompeuse. Certes, l'arrêt du travail peut marquer un retrait de la vie sociale, avec moins d'obligations et de contacts. Mais dans plusieurs cas, être à la retraite, c'est investir des activités davantage choisies et valorisées. Le concept de déprise illustre bien cette nuance. La retraite n'est pas un désengagement, c'est une réorganisation des priorités et des activités selon des intérêts et des contacts sociaux individuels qui évoluent avec le passage des jours. Vous demandez peut-être, Denis Martin, qu'est-ce que la déprise?
Oui.
Ben, c'est le réaménagement de la vie, en fait, en fonction de l'expérience de chacun d'entre nous. Plus concrètement, libérés des contraintes professionnelles, de nombreux retraités redéploient leur temps vers des loisirs, oui bien sûr, des engagements bénévoles, des voyages ou simplement des activités quotidiennes plus ou moins diversifiées. Cette libération temporelle permet à certains d'augmenter leur mobilité, qu'il s'agisse de marcher davantage, de faire du vélo, de fréquenter plus souvent les lieux publics ou d'aller faire des courses seuls ou accompagnés. Ainsi, sans interrompre la mobilité, la vieillesse la transforme. Même si les études notent une tendance globale à la baisse sur certains indicateurs, elles montrent surtout qu'il y a une mutation des manières de se déplacer. Les personnes réaménagent leurs déplacements selon, bien sûr, leur état de santé, leurs préférences et surtout les ressources sur le territoire. À ce titre, un territoire qui perd en vitalité économique ou qui voit ses commerces se relocaliser en bordure d'autoroute plutôt que dans les quartiers amène aussi les aînés à devoir se déplacer davantage. On observe alors une adaptation créative des modes de vie plutôt qu'une mise à l'arrêt. La mobilité quotidienne, plus ou moins intense, reste un pilier de l'autonomie et du bien-être et bien sûr du lien social. Passons au deuxième mythe. Après la voiture, vient le transport en commun. Cette idée repose sur une vision souvent trop linéaire des parcours de mobilité des personnes aînées. Pour une majorité d'entre elles dans les sociétés occidentales, la voiture individuelle n'est pas qu'un simple mode de transport. Elle incarne une identité, un mode de vie, une liberté. Pendant des décennies, le quotidien est rythmé et structuré autour de l'automobile. On a entendu, je suis certaine de votre côté aussi, des drames lorsque les personnes vieillissantes perdent leur permis de conduire.
Oui, tout à fait.
Alors, imaginez que l'abandon de la conduite s'accompagnera naturellement d'un passage au transport collectif est une erreur. Autour de 75 à 80 ans, beaucoup envisagent de réduire ou d'arrêter la conduite, souvent sous l'influence de problèmes de santé, de perte de réflexes et ou de la pression des proches. Mais c'est précisément à ce seuil de fragilité que les transports collectifs deviennent les plus difficiles à utiliser. Marcher jusqu'à un arrêt, surtout après les tempêtes de neige, ou du verglas, attendre dans des conditions météorologiques parfois rudes, monter dans les véhicules, maîtriser des systèmes de billetterie numérique ou affronter des correspondances complexes sont autant de difficultés à considérer. Lorsque marcher devient plus difficile, ces obstacles peuvent transformer l'usage du transport en commun de tout type, que ce soit l'autobus, le train, le métro, en une épreuve, voire une impossibilité. Dès lors, le délaissement de la voiture pour d'autres modes de transport est loin d'être automatique. Penser la mobilité des personnes aînées implique probablement de garder la voiture au centre de l'équation, mais autrement. On pensera au covoiturage, à un chauffeur, un accompagnement par les proches, des systèmes de transport à la demande ou taxi, des navettes communautaires et peut-être bien d'autres qu'on ignore encore. Le troisième mythe maintenant, vieillir, c'est déménager vers un milieu plus adapté. La plupart des personnes âgées vivent dans des logements ordinaires, que ce soit une maison ou un appartement, au sein de leur communauté et non dans des résidences spécialisées ou adaptées. En théorie, les parcours du vieillissement pourraient encourager les déménagements vers des environnements mieux adaptés, que ce soit des logements plus accessibles, quartiers plus centraux, proximité accrue des services, entre autres. Pourtant, dans la pratique, la majorité des aînés choisissent de vieillir chez eux, plus de 80% selon les enquêtes, et cela même si leur domicile n'est pas parfaitement fonctionnel. Ce choix n'a rien d'irrationnel, le logement incarne le chez-soi avec ses significations d'attachement, de souvenir, de sécurité et surtout, je pense, de familiarité. Quitter ce milieu pour un espace qui se voudrait mieux adapté peut signifier perdre ses repères ainsi que ses ancrages affectifs et sociaux.
Oui.
C'est vraiment important de tenir compte de tout ça, n'est-ce pas? Alors, vieillir, chez soi, c'est donc souvent choisir d'ajuster ses mobilités plutôt que de déménager. Mmh. C'est faire preuve d'une résilience et d'une inventivité remarquable en adaptant ses habitudes de déplacement et en conservant la maîtrise de son mode de vie, ce que l'on désigne comme la normalité résidentielle. Notons que cela ne signifie pas que les déménagements n'existent pas. Au contraire, à partir du seuil des 75-80 ans, au moment où la mobilité devient plus difficile, les déménagements représentent justement des stratégies d'adaptation, notamment vers des formules privées ou communautaires conçues pour les personnes aînées. Mais encore faut-il qu'il existe une réelle diversité d'options résidentielles attractives, inclusives et accessibles financièrement dans les milieux de vie, pour que de véritables choix puissent être faits. Bon, ces trois mythes révèlent un biais persistant. On continue de concevoir la mobilité des aînés comme une série de besoins à combler, plutôt que comme des projets riches et complets à reconnaître. Dépasser la notion de besoin permet de mettre les ressources, les préférences et les aspirations qui animent les parcours de vieillissement. Pardon. Penser les mobilités de demain, c'est aussi anticiper l'allongement de la vie, de nouvelles aspirations et la pluralité des parcours, tout comme le prolongement ou la création de nouvelles inégalités. En conclusion, loin d'être immobiles, les personnes aînées maintiennent leur lien avec leurs proches, leur quartier et leur ville. Reconnaître et soutenir cette pluralité de mobilité, de la personne casanière jusqu'à celle hypermobile, c'est travailler pour des sociétés plus inclusives, où vieillir ne signifie pas disparaître de l'espace public, mais continuer à l'habiter pleinement. Autrement.
Ben oui, puis justement, les personnes vieillissantes ont beaucoup encore à offrir. Et là, tu sais que je vais m'inclure là-dedans. Moi, je vais avoir 65 ans cette année. Donc, officiellement, je vais être un vieux, comme ils disent. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu regardes les... Tu parlais de transports en commun, on pourrait en revenir, mais les transports en commun, tu sais, les attentes sont plus longues, les trottoirs sont pas nécessairement déneigés. Tu sais, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais on va pouvoir en reparler. Moi, je te garde, si ça te dérange pas, je te garde pour la prochaine... première partie de la prochaine demi-heure. On va faire peut-être un petit tour aussi de tes nouvelles et de tes insolites et aussi de capsules linguistiques. On t'attend tout à l'heure?
Oui, avec plaisir.
Alors moi, je vous rappelle que, c'est sûr là, qu'on va connaître le dédenti pour la météo pour les prochains jours partout au pays. Là, ça va chauffer, ça va refroidir. Alors soyez patients. Puis selon Météo Média, ça va être long avant que le printemps arrive. Après la pause, donc, on revient avec Monique et puis on va aussi parler encore de vieillissement puisque on va parler de la Fondation Institut Gériatrique de Montréal qui lance une campagne pour le mieux vieillir. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Un autre jour à te regarder, de comprendre comment tu vois les choses passer. Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui, et à chaque moment la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque.
Mais c'est toujours les vacances, avec toi c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand on est ensemble, quand on est ensemble.
Un autre jour à me demander comment je faisais avant, à quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie où tout n'était que souci, mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que c'est
toi c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Les trois accords et cœur de pirate pour la chanson « Toujours les vacances ».
En tout cas, je ne sais pas si on est en vacances, mais quand on a chaud, Monique, est-ce qu'on mange plus ou moins de sucre?
Qu'en pensez-vous, cher ami?
Mon petit doigt me dit que oui.
Vous avez tout à fait raison. Alors, soda, jus de fruits, crème glacée sont consommés pour se rafraîchir. Peut-être pas une bonne idée. En effet, une équipe internationale a comparé les paniers de courses de ménage américains en fonction de la météo entre 2004 et 2019 et a établi qu'à partir de 12 degrés Celsius, ils consomment en moyenne 0,7 g de sucre en plus par jour pour chaque terre. Alors, selon ce calcul implacable, ça mènerait, au vu du réchauffement global, à 3 grammes de sucre supplémentaire par jour en 2095. Et on l'imagine, n'est-ce pas, avec son lot de maladies associées. Donc, soyons vigilants. Évitons de manger de la crème glacée, de boire des sodas ou des jus de fruits. Peut-être tout simplement un thé, une tisane.
Un bon verre d'eau avec quelques gouttes de jus de citron dedans.
Ah, ou de jus de lime, c'est
oui,
parfait.
Oui, c'est tellement bon. Ouais.
Tellement bon, c'est tout à fait juste.
Les dauphins et les orques peuvent-ils coopérer?
Ça m'a intéressé comme petite nouvelle, parce que je me disais, voilà peut-être un bel exemple d'entraide. Alors oui, ils peuvent coopérer. Dans le Pacifique Nord, il y a des biologistes qui ont vu ces deux espèces chasser ensemble le saumon royal en parfaite coordination. Alors voilà comment ça se passe. Les orques semblent s'appuyer sur l'éco-location des dauphins. Éco, là, c'est pas E-C-O, mais bien E accent aigu, C-H-O. Donc, l'écho que les dauphins émettent pour repérer les proies, donc les saumons royaux. Et les dauphins profitent ensuite des restes des repas des orques. Parce que les saumons sont trop gros pour les dauphins. N'est-ce pas une belle complémentarité, une belle entraide, un beau modèle?
Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Hein, on pourrait peut-être apprendre deux, hein, ça serait ça. On termine avec une capsule linguistique. Là, j'avais de la misère à lire ça, je m'en attendais pas.
Oui, je m'en attendais pas, on entend ça souvent, ouais. Hein, je m'en attendais pas.
Moi, j'avais tendance à dire je m'y attendais pas, mais là, peut-être que c'est moi qui fais l'erreur.
Ah, pas du tout. Vous avez tout à fait raison, parce qu'en français moderne, d'abord, le verbe pronominal « s'attendre » se construit avec la proposition « à » et non « de ». On dit qu'on s'attend à quelque chose. Le pronom qu'on utilise lorsque la préposition « à » est sous-entendue, en « y », c'est en fait le « y » et non le « en ». Donc, au lieu de dire « je m'en attendais pas », on dirait plutôt « Je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire je ne m'attendais pas à ça. Je dois dire que ça a été entendu à la radio par Guy Bertrand. Donc, c'est une erreur qui est commise. Peut-être pas par nous deux, mais par d'autres.
Ah, ben l'ayatollah de la langue, lui, il s'y attend à ces choses-là, puis il les corrige.
Exactement. C'est tiré de sa dernière publication, en fait, qui s'appelle « Le français au micro, chronique de langue ».
Ah oui, oui, oui. Ah, écoute, je vais juste revenir rapidement sur notre discussion d'avant la pause. Le vieillissement, puis l'adaptation de nos sociétés, c'est quand même extraordinaire qu'il y a tant de désinvestissement dans les transports publics, l'entretien des trottoirs. Je ne sais pas cet hiver comment c'est dans ton coin, mais à Montréal, il me semble que les trottoirs, c'est épouvantable cette année.
Faut dire, faut parler de Magog par rapport à Eastman. J'habite à Eastman. À Eastman, il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Ah. Ils sont relativement, ceux qui existent sont relativement bien nettoyés, déblayés. À Magog aussi. Par contre, le transport en commun, on n'en a pas.
Ben, en région, c'est plus difficile, c'est vrai.
C'est très difficile, je veux dire. Il faut prévoir d'autres modes de transport.
En fait, moi, tu sais que ça fait... Je n'ai plus d'auto depuis 2004. Alors, ça fait 22 ans que je... En fait, ça fait 22 ans cette année que j'utilise les transports publics. J'avoue que je trouve, il me semble que le service est moins bon. Là, c'est vraiment anecdotique, hein? Alors, il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus. Et cette année aussi, je remarque que l'entretien des trottoirs, peut-être parce que je suis plus vieux et j'ai tendance à plus glisser, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que les trottoirs sont moins bien entretenus, du moins à Montréal qu'avant. Alors ouais. Là, c'est très anecdotique, hein? Alors, si jamais il y a des études là-dessus qui sortent, on en reparlera.
Oui, mais il faut. C'est peut-être parce qu'on devient plus craintif.
Oui.
Je suis beaucoup plus vieille que vous, cher ami. Et je dois dire que hier, je me déplaçais à Montréal et les trottoirs n'étaient pas du tout déneigés puisque il n'arrêtait pas de neiger. Et j'étais un peu plus craintive parce que se cache sous la neige des fois
de
des petites.
Et moi, je mets des crampons de plus en plus quand je sors
après
les chutes de neige comme on a eu. Mais en tout cas, ce serait des choses à vérifier. Puis c'est clair que si jamais je vois des études là-dessus qui sortent sur soit la réduction du service de transport en commun, que moi je perçois, mais qui est anecdotique, hein. Moi, je ne suis pas un animateur de radio qui pense que ce que je vois, c'est la vérité. Pas du tout. Mais j'ai l'impression que, puis on vérifiera si c'est vrai. Puis même chose pour l'entretien des trottoirs.
Oui, tout à fait. Et puis peut-être que la semaine prochaine, je reviendrai avec un autre texte, si ça vous intéresse, sur le vieillissement.
Pourquoi
Mais
pas.
Peut-être le logement ou d'autres réalités, en fait.
Pourquoi
L'aménagement
pas.
Des parcs. Il y a plein de sujets qui nous concernent maintenant.
Mais merci beaucoup, Monique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Chère Jeannette, ce n'est pas un courrier du cœur, mais une initiative de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal visant à mieux vieillir. Ce projet, porté par l'emblématique Jeannette Bertrand, invite les aînés et leurs proches à briser le silence sur les défis du quotidien liés au vieillissement. Et nous recevons aujourd'hui Marie-Hélène Vendette, qui est directrice générale de la Fondation. Bienvenue à Canalem.
Merci.
Alors, on va parler un peu de l'origine hein, et de la mission. Pourriez-vous un peu nous expliquer ce qui a motivé la Fondation à lancer ce projet « Chère Jeannette » et c'est quoi l'objectif de cette campagne?
Absolument. Donc, la campagne « Chère Jeannette », c'est vraiment un projet de notre Jeannette Bertrand nationale qui rapidement nous a approchés l'an dernier en nous disant « Écoutez, j'ai une idée. J'ai un nouveau projet. » On sait que Jeannette Bertrand déborde d'idées et elle souhaitait...
Même
vraiment...
à 100 ans, bientôt 101, oui.
Exactement. Et elle souhaitait le faire en collaboration avec notre fondation, l'Institut de gériatrie de Montréal, parce qu'elle a une attache toute particulière. Elle reçoit des soins, on en parle ouvertement. Elle trouve que ces soins-là sont extraordinaires à l'Institut. Et donc, elle est très attachée à notre fondation pour permettre de contribuer au mieux vieillir des aînés du Québec. Donc, rapidement, il nous a présenté son projet. On a pris quelques temps pour trouver une finalité qui permettait de rendre service à nos aînés. Mm-hmm. Donc, d'où est né le projet « Chère Jeannette » qui invite les aînés à lui écrire.
Ah oui?
Et elle lit les messages. Oui. Donc, les aînés, via le site de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, vont écrire dans un formulaire un message qui parle de leurs préoccupations du quotidien. Parce qu'à l'Institut de gériatrie et au Centre de recherche, il y a énormément de spécialistes en gériatrie. Et il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'études de recherche qui se font, qui sont là pour améliorer la qualité de vie des aînés, les soins. Et souvent, ces données-là restent dans le milieu médical, directement avec les patients. Mais il y a tellement de belles initiatives qui peuvent être appliquées au quotidien par les aînés chez eux. Et c'est un peu le but de cette campagne-là, de dire faisons ce lien-là entre Jeannette Bertrand, qui est tellement aimée de notre communauté, et tout le savoir extraordinaire qui réside à l'Institut et au Centre de recherche. Donc, en recueillant ces messages-là de nos aînés, et on en reçoit là, déjà centaines, là, absolument, absolument. Donc, puis il n'y a pas de limite, on invite les gens à vraiment écrire. On peut déterminer quelles sont les préoccupations, les défis du quotidien.
Donc, ça vous guide.
Ça nous guide. Ça nous guide dans... On dit beaucoup aux gens, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez appliquer, mais est-ce qu'on leur demande? Et c'est vraiment ça le but de cette campagne-là, de dire quelles sont vos préoccupations. Dans les médias ou dans l'espace public, souvent, les sujets reliés au vieillissement, aux aînés, c'est pas très, très positif.
Ah, c'est toujours négatif.
On
va le dire.
Soyons honnêtes, c'est très négatif. Alors qu'il y a tellement de belles choses qui se font. Et les messages qu'on reçoit, vous savez, parlent de défis, parlent de préoccupations, mais sont très, très lumineux. Mm-hmm. Puis des fois, on se dit, mon Dieu, qu'il ne manque pas grand-chose dans notre société pour que nos aînés reprennent, parce qu'ils l'ont déjà eu, reprennent leur place et puissent participer, se sentir importants.
Donc, vous faites quoi avec ces données-là? Vous avez donc les gens qui vous font part de leurs préoccupations. Vous, Absolument. Vous en faites quoi après?
Par la suite, donc, c'est lu mm-hmm. par notre ambassadrice Jeannette Bertrand, mais c'est aussi de notre côté, on en ressort les grandes thématiques pour dire, voici, par exemple, la solitude ressort, l'incontinence urinaire, c'est des sujets vraiment très diversifiés, mais qui peuvent faire toute une différence. Un aîné qui vit une situation comme ça va avoir tendance à s'isoler. Oui. Et on sait que nos aînés, quand ils s'isolent, c'est des déclins cognitifs. C'est des éléments qui sont perdus, qui ne peuvent pas être repris. Donc, parfois, de petits conseils font une énorme différence dans leur vie. Donc, on va établir ces grandes thématiques-là et par la suite, on va produire au printemps des vidéos avec les spécialistes qui vont aller s'adresser à nos aînés pour leur dire voici ce qui peut, si vous êtes concerné par le sommeil, voici des petits trucs qui peuvent vous aider. Puis, il faut mentionner que là, je parle d'aînés, mais on parle aussi aux proches aidants.
Oui.
Et c'est important parce qu'on se rend compte que c'est une génération de proches aidants qui sont, on le sait, on l'appelle beaucoup la génération sandwich, pris en leurs enfants puis leurs parents et qui sont dépourvus. Il y a quelqu'un qui, dans mon entourage, faisait l'exemple de lorsqu'on a un enfant, on sort de l'hôpital, on est très outillé là. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, des livres, des lectures, peut-être même un peu trop parfois. Mais quand on arrive comme adulte par rapport à son parent qui commence à avoir des troubles neurocognitifs, qui commence à se sentir moins en sécurité à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais. C'est un grand trou noir.
Et c'est souvent des femmes qui se retrouvent dans les rôles de proche aidance aussi.
Absolument.
Et souvent l'épouse. Je ne veux pas parler d'exemples précis parce qu'il y en a plein dans ma tête, mais qui s'occupent d'une personne en perte de cognitive.
Mm-hmm.
Moi, par exemple, j'avais dit, ben écoute, si t'as peur, là, enlève le breaker du... le disjoncteur de la cuisinière électrique, oui. Ça a réglé le problème, parce qu'il n'ira pas remettre le disjoncteur. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations difficiles. Les gens qui écrivent, admettons, là, quelqu'un écrit, puis c'est vraiment une situation très problématique. Est-ce que vous répondez immédiatement à cette personne-là?
Nous, on a mis en place absolument une procédure si ce sont des appels de détresse que l'on reçoit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je crois que les gens ont bien compris l'essence de cette campagne-là, qui est sur quand même un certain terme. Mais oui, absolument. Et c'est extrêmement important pour notre organisation. Ce n'est pas notre mission.
Non.
Mais en sollicitant les gens, on pourrait être appelé à devoir réagir. Et puis, on a, bien, vous vous en doutez bien, une extraordinaire collaboration, que ce soit de la part de l'Institut ou du centre de recherche. Donc, c'est pas moi comme directrice générale qui a la formation et les habiletés à répondre,
mais
ce sont des gens.
Chose.
Oui, on a prévu. C'est important de mentionner toutefois que cette campagne-là, évidemment, c'est pas les gens ne reçoivent pas de réponse personnalisée.
Oui.
C'est vraiment dit très clairement pour pas décevoir.
Mais s'il fallait que Jeannette réponde à chacune
oui, là,
des personnes,
oui, là, ce serait tout un contrat.
Des milliers de réponses à faire. Vous avez mentionné donc cet aspect donc des gens en perte cognitive. Il y a une autre chose qui me vient en tête parce que, encore une fois, je pense à quelqu'un en particulier qui n'est pas très doué avec les ordinateurs. Si on veut vous contacter d'une autre façon, est-ce que c'est possible que passer autrement que par le site web là?
Absolument. Donc, nous, ce qu'on réalise, c'est que ça rejoint la technologie, mais on a énormément de gens qui écrivent présentement sur Facebook.
Mmh.
Les réseaux sociaux de la Fondation, et
ah
particulièrement
oui.
le Facebook, il est pris d'assaut et c'est fantastique parce que les gens écrivent, mais se répondent. On doit quand même rappeler que pour pouvoir envoyer son message à Jeannette et qu'elle le lise, ça doit passer par notre site web.
Mmh.
Ceci étant, on est sensibilisé à la réalité de certains de nos aînés et oui, il y a une possibilité de contacter la Fondation puis on va vous appuyer. On est une toute petite équipe, donc c'est certain que le canal principal, c'est notre site web, mais on a vu des initiatives et c'est hautement sympathique dans différentes régions du Québec où des organisations communautaires organisent des après-midi de rédaction à Jeannette dans le cadre de notre campagne pour aider les aînés qui sont moins habiles avec l'informatique. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité de créer une collaboration.
Oui.
Là.
Puis d'aider les gens aussi à acquérir des outils.
Apprivoiser, exactement. Mais nos aînés sont très à l'aise quand même, de façon générale, avec la technologie. Écoute, on a une dame de 104 ans qui a écrit en fait à Jeannette, tout en lui mentionnant qu'elle l'avait fait seule et qu'elle n'avait pas été aidée par ses petits-enfants.
Oui, on a toujours cette façon de penser que parce qu'une personne est plus âgée, elle n'a pas toujours les compétences. Ouais. Je vais vous amener sur une urgence démographique. Hein. On dit que, dans votre communiqué, en fait, on dit qu'un Québécois sur 4 aura plus de 65 ans d'ici 5 ans.
Oui.
En fait, moi, ça m'inclut.
Oui.
Cette année, pour moi, en quoi cette réalité rend-elle le financement de la recherche et des soins spécialisés le plus crucial que jamais?
Parce que je dois dire que notre société, on l'entend beaucoup, n'est pas prête à ce boom démographique au niveau de la vieillesse, donc du vieillissement. Il faut quand même comprendre que quelqu'un qui a 65 ans n'a pas la même réalité que quelqu'un qui en a 85 ou 90. Donc, de plus en plus, nos scientifiques, nos experts nous amènent à parler des vieillesses. Donc, comme on parle de l'enfance qui est divisée en plusieurs étapes, donc ce n'est pas les mêmes enjeux, mais que ce soit le maintien à domicile, que ce soit les infrastructures, les soins. Donc, c'est pour ça qu'une campagne comme la campagne Chère Jeannette est tellement pertinente. À son échelle, elle apporte des solutions aux gens pour éviter peut-être d'envisager plus rapidement un hébergement en centre ou d'aller consulter son médecin quand il y a certains questionnements. Évidemment, ce ne sont pas des diagnostics, c'est vraiment des conseils pratiques.
Tout à fait.
Mais on doit se préparer parce que c'est une réalité qui est déjà enclenchée.
Et qui risque de se retrouver seule. On l'a mentionné tantôt, l'isolement, la solitude.
Absolument.
C'est vraiment le problème peut-être numéro un là, de des personnes qui vieillissent.
Du moins, c'est quelque chose qui est extrêmement mentionné. Mm-hmm. Et encore une fois, de connaître, vous parliez tout à l'heure de la cuisinière et tout, il y a plein de technologies maintenant qui existent et notre centre de recherche fait partie de ceux qui les analysent. Donc, quand je vous dis qu'il y a vraiment un savoir à transmettre, c'est très, très concret et ô combien bénéfique, autant pour les aînés que les proches aidants.
Alors, chère Jeannette, c'est un projet qui est réalisé en complicité avec Québecor et avec le soutien de la Fondation Mirella et Lino Saputo.
Exactement.
C'est important d'avoir des collaborations comme ça?
C'est très important. On est un OBNL. Mm-hmm. On a accès à des connaissances du savoir, on connaît les problématiques. Donc, pour pouvoir mettre ça en liaison, en lien, comme on le fait dans notre campagne, chère Jeannette, on doit avoir des gens qui croient en notre projet et c'est le cas de Québecor puis de la Fondation Saputo.
Alors, ceux qui veulent écrire à chère Jeannette, vous avez jusqu'au 31 mars 2026.
Exactement.
Le site, c'est en un seul mot, pas d'accent, pas de majuscule, chère Jeannette, J-A-N-E-T-T-E, pour ceux qui ne se rappellent pas, chèrejeannette.com. Pour participer à la discussion, Marie-Hélène Vendette, directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. Merci.
C'était un plaisir.
Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de vieillissement et puis oui, j'ai fait quelques commentaires sur le fait que oui, moi aussi, je suis une personne qui vieillit. Et la raison, c'est pas que je veux mettre de l'avant ma vie, c'est que je trouve que effectivement, on doit, je ne veux pas contribuer à l'invisibilisation des personnes vieillissantes. Alors, de cacher mon âge, ça serait une façon de contribuer à ça. Alors, c'est un peu pour ça, parfois, que je fais ce commentaire, parce que je pense qu'en donnant l'exemple, ben, ça peut aider à rendre les choses plus faciles ou meilleures pour les gens. Je continue la revue de presse, météo et perspectives printanières. Le passage vers la saison estivale s'annonce particulièrement laborieux cette année au Québec. Selon les dernières prévisions de Météo Média, le chemin vers l'été sera long et sinueux en raison d'un corridor actif de précipitations qui s'installera sur la province. Le météorologue André Monette prévient que l'hiver ne finira pas tôt, avec des tempêtes de neige encore possibles en mars et en avril. Cette situation s'explique par une confrontation entre l'air froid des prairies et la chaleur du sud des États-Unis qui entraînera des quantités de pluie et de neige au-dessus des normales pour la majorité des régions. Bien que des poussées de chaleur occasionnelles soient prévues, les autorités surveillent déjà de près le risque d'inondations printanières si le dégel s'effectue trop rapidement. Alors, juste un fait à noter, là, le phénomène climatique qu'on appelle la Niña devrait se dissiper prochainement pour laisser place au retour del Niño au cours de l'été 2026, qui explique donc cette transition en partie instable du printemps. Le premier ministre Mark Carney entame cette semaine une visite diplomatique cruciale en Inde, marquant un virage pragmatique dans les relations entre Ottawa et New Delhi. Accompagné d'une importante délégation, M. Carney rencontrera son homologue Narendra Modi pour jeter les bases d'un partenariat économique global avec l'objectif de doubler les échanges bilatéraux d'ici 2030. Si le gouvernement de Justin Trudeau était marqué par des tensions liées à l'ingérence de la part de l'Inde, l'administration Carney se dit aujourd'hui convaincue que l'Inde a abandonné ses activités criminelles sur le sol canadien. Et ces rapprochements, donc, sont toutefois critiqués par certains experts et militants sikhs qui voient un aveuglement volontaire au profit du commerce, alors que les services de renseignement maintiennent des avertissements sous les risques d'ingérence étrangère par rapport à l'Inde. Après la pause, donc, on va parler avec Maxime Despomerleaux de son nouveau spectacle et ça sera le temps aussi de faire le point sur les Jeux paralympiques qui s'en viennent, alors à grands pas, la semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle que, ben, c'est ça, on va continuer d'avoir du froid, de la neige, de la météo en dentis pour encore quelques temps. Alors, on semble de patience.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Demi-tour en enfant.
La chanson jouée, Ariane Moffat.
L'artiste Maxime Despomerleau est une figure incontournable de la culture inclusive à Montréal. Puis je pense que je devrais peut-être le dire, elle a déjà été animatrice ici à Canalem. Nous la recevons aujourd'hui pour parler de la tournée 2026 de Quand tu me regardes, une œuvre poétique de la compagnie Corpuscule Danse qui transforme le regard sur le corps et le handicap. Bienvenue, Maxime. Bienvenue à l'émission.
Merci. Bonjour, Denis Martin.
C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, ce spectacle, c'est une première production de la compagnie destinée au jeune public. Alors, comment adaptons une démarche de danse inclusive pour les enfants dès l'âge, quoi, de 6 ans?
Oui, tout à fait. Donc, le spectacle, Quand tu me regardes, on dit que c'est pour un public de 6 à 12 ans, mais dans le fond, on sait que les grands enfants, les adultes s'amusent beaucoup aussi à voir le spectacle. Mais en ce qui est pour si on veut parler d'adaptation, si on veut de nos processus de création en danse inclusive, en fait, c'est la même chose. Mm-hmm. Peu importe pour le public pour lequel on crée, on a toujours envie d'explorer plus loin ces notions de handicap, comme on en parle, mais aussi, en fait, de mouvement. Donc, le mouvement part du corps. Comment le corps fonctionne, le corps de tous les interprètes, qu'ils soient en situation de handicap perceptible ou imperceptible, ou pas en situation d'handicap. Donc, il faut savoir que Corpuscule Danse, on travaille toujours avec une mixité d'interprètes pour chaque production. C'est le cas pour Quand tu me regardes aussi. Et donc, en fait, on part du mouvement, on part des interprètes, puis avec certaines idées qu'on a envie de mettre en scène. Et donc, on peut dire que c'est vraiment le même type de processus de création pour nous, que ce soit pour un jeune public ou un public adulte.
Alors, la question centrale du spectacle, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui nous rend unique, selon toi? Comment la danse permet-elle de répondre à cette interrogation sans utiliser de mots?
Wow! C'est une très bonne question. Bien, en fait, c'est probablement ce que moi, personnellement, je trouve aussi intéressant avec la danse, c'est qu'on est dans l'image, dans la création d'images, dans l'expression corporelle, dans la sensorialité aussi. Et je suis profondément convaincue que chaque personne peut danser, peut bouger, peut créer du mouvement, peut créer de la poésie par le mouvement, même si la personne est gênée, même si elle dit qu'elle ne sait pas danser, qu'elle n'a pas d'expérience. On est toujours un peu gênée des fois dans des parties de danser, parce qu'on a peur du regard des autres. On se juge peut-être un petit peu aussi des fois. Alors que je pense qu'il y a vraiment moyen, en fait, que tout le monde s'exprime par le mouvement. Puis je pense que c'est là aussi où on montre que tous les corps sont valides aussi, tous les corps apportent leur histoire. Et je pense que ça transparaît dans la danse.
Bon, on va parler du spectacle comme tel. Je comprends que vous jouez avec des fauteuils roulants transformés en marionnettes ou des robots disco. Comment ce passage de l'outil technique à l'outil artistique, comment ça joue ça dans la gestuelle?
Oui, bien, c'est sûr que justement la compagnie travaille toujours avec ce matériau-là, notamment parce que c'était le fauteuil roulant de France Geoffroy, la cofondatrice de Corpuscule Danse, qui est décédée en 2021. Alors, ces fauteuils roulants à elle appartiennent à la compagnie, font toujours partie de nos explorations. Mais c'était aussi surtout un désir du chorégraphe et metteur en scène Guillaume Chouinard. Lui fait comme interprète beaucoup de jeunes publics aussi. Il y avait un intérêt à aller explorer cet appareil-là, à justement le démonter, le transformer, voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Qu'est-ce que la somme de ces parties, donc les roues, les poignées, le cadre bâti, donc les coussins même, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Et donc, pour aller un peu plus loin dans cette image du fauteuil, donc c'était vraiment un désir du chorégraphe et assisté du dramaturge Georges-Nicolas Tremblay, qui travaille avec la compagnie Corpuscule depuis de nombreuses années. Mais on est vraiment arrivé à tisser quelque chose, puis à partir d'un appareil qu'on trouve peut-être un peu drabe, hein, on va se le dire, pour le transformer en quelque chose de ludique, de poétique aussi, puis qui peut vraiment incarner différentes figures, différentes images selon comment on le transforme, et comment on le transforme aussi avec la lumière. Donc, quand on est dans un spectacle, c'est pas juste non plus les interprètes ou les appareils qu'on voit sur scène, mais des fois, avec la lumière, on peut aller chercher des images différentes. Donc, on a vraiment travaillé autour de cet appareil-là pour le transformer.
Parlons de ta démarche personnelle, si je comprends bien, ça s'appuie sur des micro-mouvements et la sensorialité. Alors, comment tu intègres ces éléments-là dans une pièce, en fait, dans un numéro ludique et dynamique, là, comme celui qu'on présente quand tu me regardes?
Oui, c'est une bonne question. En fait, effectivement, c'est vrai que dans ma pratique personnelle, je m'intéresse beaucoup aux micro-mouvements. Aussi, je pense, de par cette idée-là que tout le monde peut bouger, même si ce sont des petits mouvements par les doigts, par le visage, par les grimaces. Donc, ça, c'est quelque chose que j'explore beaucoup. C'est sûr qu'on retrouve un petit peu moins ça dans un spectacle jeune public, parce que les rythmes sont différents, la dynamique est différente. Mais je pense qu'on est on est arrivé à aller créer des choses qui, justement, viennent un peu contrecarrer ce rythme rapide et explosif auquel on s'attend des spectacles jeunes publics. Puis on a instauré quelques numéros, quelques tableaux qui sont plus lents, qui invitent à se déposer et où on va justement explorer un petit peu plus la sensorialité, la douceur, la lenteur. Donc, à ce moment-là, quand il y a un petit peu moins de dynamisme et d'explosion autour des interprètes, bien, c'est là qu'on peut voir plus les petits mouvements, les micro-mouvements, les expressions faciales. Donc, je pense que c'est là que je vais aussi retrouver mon intérêt.
Oui, tu ajoutes d'autres choses dans ton spectacle. On parle de musique originale et des voix en langue autochtone. Alors, quelle place occupe donc cette dimension là, dans ton interprétation?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est que moi, je suis accompagnée de deux autres interprètes sur scène. Le casting original, c'était avec moi, Jérémy Desbiens et Ivani Aubin-Malo, qui est une artiste autochtone, donc en danse et en performance. Et elle a amené beaucoup, elle a insufflé justement dans la création des éléments de sa culture, de Première Nation. Donc, elle est Wolastoqui. Et donc, il y a au moins une pièce, en fait, de la musique qui où on l'entend chanter dans sa langue, le Wolastoqiyik. J'espère que je le prononce bien. Et on a une autre composition musicale originale aussi avec l'artiste Mo Clark, donc qui, elle, amène la langue cri des plaines. Mm-hmm. Et en fait, c'était un peu cette idée de... C'est vraiment par la porte, si on veut, d'Ivanise, qu'elle nous a amené dans le processus de création, qu'on a exploré davantage la culture autochtone, aussi parce que ça rejoint cette idée de quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ne vois pas, comme on disait d'entrée de jeu, qu'est-ce qui nous rend unique. Ben l'héritage autochtone d'Ivani, c'est quelque chose qui la rend unique, c'est quelque chose qu'on avait envie d'insuffler, même si c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement déceler sur scène en la voyant. Et c'est la même chose aussi pour sa doublure, Nicole Jacobs, qui fait la tournée présentement avec nous, avec Jérémy. Elle est aussi autochtone, elle est Anishinaabe. Et donc, on est justement allé chercher des influences musicales avec les compositions originales du studio La Marcelle, donc ce duo de musiciens avec qui on a travaillé. Et donc, on a vraiment une trame sonore originale qui est... Oui. Disponible en ligne aussi, si les gens veulent l'écouter. Donc, on est vraiment très, très heureux d'être allé chercher ces collaborations-là. On pense que ça rend le spectacle d'autant plus unique.
Bon, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant, parce que tu es interprète pour Groupuscule Danse depuis 2014. Ça fait quand même 12 ans. Quel regard portes-tu sur l'évolution de la danse inclusive au Québec?
Oui, bien, Groupuscule Danse, c'est... C'est un peu un heureux accident de parcours, en fait. J'avais pas du tout pensé que je pouvais faire ça dans la vie. Et j'ai fait ma première production avec eux en 2014, effectivement. Là, c'est ma quatrième production avec la compagnie. Puis j'ai quand même vu une évolution. Il y a vraiment une ouverture du milieu de la danse au Québec par rapport à, justement, avoir des interprètes atypiques, on va dire, sur scène. On a souligné nos 25 ans en 2025, la compagnie. Donc, on a pu vraiment tracer aussi, faire une sorte de ligne du temps pour voir que les premiers projets étaient assez, pas disparates, mais ça prenait quelques années entre chaque projet, alors que maintenant, on en a plusieurs en développement en même temps. Donc, il y a vraiment un engouement, il y a un intérêt, il y a un intérêt des diffuseurs aussi. Je pense qu'il y a une meilleure compréhension aussi de ce qu'on amène à la table, de ce qu'on amène comme originalité, mais comme rigueur artistique également. Donc je pense vraiment qu'il y a un vent de changement. Ça souffle sur le vent de l'inclusivité aussi, de la diversité corporelle. C'est quand même des choses qui sont dans les discours, dans le milieu artistique depuis quelques années. Donc, on s'inscrit là-dedans.
Et toi, tu le mets sur scène. Donc, merci beaucoup, Maxime Despomerleau, d'avoir partagé. Donc, c'est avec nous cet univers où le fauteuil devient, Vlaéolan devient de la poésie. Et je rappelle que le spectacle, Quand tu me regardes, poursuit sa route jusqu'en avril 2026 dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée. Bien, merci beaucoup et à très bientôt.
C'est un grand plaisir. Bonne merci. Journée à tous et
au
à
revoir.
Toutes. Au revoir.
Ben, c'est temps de parler de parasport avec notre expert en parasport, lui-même olympien ou paralympien, je devrais dire, Dominique Tremblay. Salut Dominique!
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, c'est jeudi, c'est la fin de la semaine pour nous à l'émission. Et oui. Ben oui, on va faire du bien de prendre un peu l'air. Cela dit, les Jeux olympiques de Milan-Cortina viennent de terminer. Et à cette occasion, on a aussi parlé, parce que bon, le Canada est un peu déçu de ses médailles, mais on a parlé du financement aussi des athlètes olympiques. Est-ce que ce manque de financement est le même pour les athlètes paralympiques?
En fait, la réponse est oui, mais c'est pas quelque chose qui touche nécessairement les athlètes qui vont participer aux Jeux paralympiques d'hiver. Aux Jeux paralympiques, on retrouve seulement 6 sports comparé à entre 10 et plus de 15 là, pour les Jeux olympiques d'hiver. Donc, le Canada est représenté par seulement 50 athlètes et comparé à 220 pour les Olympiques. Donc, le financement pour les athlètes paralympiques est plus concentré. Donc, si la pointe de tarte pour les Jeux paralympiques est divisée en seulement 50, elle va être plus grosse que si elle est divisée par 220. Et ça se reflète quand même dans le tableau des médailles là, pour le Canada. Depuis les Jeux de Vancouver en 2010 où le financement a été augmenté. Depuis ce temps-là, le nombre de médailles en sport d'hiver pour les Jeux paralympiques, on parle de, à Vancouver, on avait reçu 19 médailles, ce qui avait été le meilleur résultat du Canada jusqu'à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, le Canada est confortablement installé en troisième position là, dans le classement des médailles par médaille d'or. Et dans les cinq premiers depuis Vancouver, pour les Jeux, pour le total des médailles dans les Jeux paralympiques depuis 2010. Cependant, ce manque de financement explique en partie les résultats un petit peu plus décevants qu'on retrouve lors des Jeux paralympiques d'été. Donc, en 2000, à Sydney et aussi à Athènes, en 2004, le Canada avait terminé troisième au classement des médailles d'or avec 38 à Sydney et 28 à Athènes. Et depuis ce temps-là, ben, le Canada est presque en chute libre. Paris a quand même si bon le classement pour le Canada s'est augmenté là, à Paris avec une 12e place. C'est quand même beaucoup plus difficile pour le Canada de gagner des médailles aux Jeux paralympiques d'été puisqu'il y a 22 sports et en plus, il y a beaucoup plus de pays qui participent. Donc, le financement, c'est pas nécessairement la seule raison, mais explique en partie les résultats plus décevants pour le Canada aux Jeux paralympiques. Mais comme on est cette semaine, on parle de Jeux paralympiques d'hiver, on va être positif, puis on va dire que ça va bien aller là, pour les athlètes qui vont être à Milan et Cortina.
Ouais, on n'a pas vraiment eu le temps pour faire ça dans une autre participation à l'émission, Dominique, mais ça serait le fun de parler aussi de ces athlètes. J'ai vu la liste des 50 athlètes qui vont. En ce que ça semble prometteur?
Oui, on va en parler plus précisément là, à partir de la semaine prochaine, tout juste avant la cérémonie d'ouverture là, qui va avoir lieu. Le 6 mars.
Bon, ben justement, il y a deux semaines entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Pourquoi ce délai entre les deux événements?
Entre autres, ben, la grosse différence, c'est que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont gouvernés par deux différentes entités. Donc, le Comité olympique international pour les Jeux olympiques et le Comité paralympique international pour les Jeux paralympiques. Donc, le branding, le marketing ou les logos, les couleurs, ainsi, diffèrent un peu entre les deux Jeux. Donc, on doit retirer les cinq anneaux olympiques et le remplacer par l'Adidas, qu'on appelle le logo des Jeux paralympiques. Il va y avoir un petit peu de différence aussi en termes de couleurs, mais bon, ainsi de suite. Mais aussi rendre les sites plus accessibles pour les athlètes et aussi pour les spectateurs. Ouais. Par exemple, la seule compétition qui va avoir lieu à Milan, c'est le para-hockey. Donc, pour permettre aux athlètes de participer à leur sport, de jouer au para-hockey, il faut changer toutes les bandes pour qu'ils soient à la même hauteur que la glace. Il faut aussi remplacer le banc des joueurs quand c'est pas notre tour de jouer sur la glace, où les athlètes se placent. Au hockey, c'était des bancs des joueurs, mais comme la luge sert de banc et que l'athlète sort pas de sa luge quand il a fini son tour sur la patinoire, ben ça lui permet, faut qu'il soit capable de glisser sur le banc des joueurs. Donc, avec une feuille de plexiglas là, qui permet aux patins de la luge de continuer à glisser. Et aussi, pour permettre de voir le jeu, la bande qui est en avant du banc des joueurs est en plexiglas, donc est transparente. Ça permet aux joueurs de voir l'action, parce que sinon, ça avait été des bandes blanches ou des commentaires qui étaient sur cette bande-là, ben, les joueurs ne pourraient pas voir le jeu. Puis bon, évidemment, il faut qu'ils soient capables de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un exemple de changement qui a lieu là entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et bon, ça va être la même chose pour les 5 autres sports. On parle de para-ski de fond, para-ski alpin, para-biathlon et le para-surf des neiges. Donc, ça, c'est les 5 autres sports. Puis, pardon, le para-curling aussi qui va être là. Donc, c'est les 5 différents sports où en plus du para-hockey où les changements vont avoir lieu. Et aussi, il faut donner quelques jours de repos aux bénévoles qui ont participé aux Jeux olympiques, parce que évidemment la plupart du temps c'est les mêmes qui vont avoir lieu, qui vont être utilisés, les mêmes bénévoles qui vont participer, pardon, aux Jeux paralympiques.
C'est extraordinaire, j'aurais jamais pensé à ça. Ben oui, faut adapter tous les sites pour que ça soit plus praticable pour les personnes en situation de handicap. On n'aurait jamais pensé
en
à ça.
Oui.
C'est quand même extraordinaire. Puis je me rappelle, à Paris, il y avait aussi l'accès pour les spectateurs et spectatrices. Et je me rappelle Thomas Joly qui avait organisé les cérémonies. Se plaignait qu'à Paris, les saillies de trottoirs au coin de rue... Mais il n'y en a pas de saillie de trottoir. Là, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'était vraiment pas idéal pour aller voir un spectacle. Là, tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on pense pas. Hein?
C'est ça. Puis c'est une des raisons qui explique, il y en a plusieurs, là, que les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques ne soient pas en même temps, parce qu'il y a tellement d'adaptations et de petites différences que ce ne serait pas possible d'avoir les deux compétitions en même temps. Donc, ces deux semaines-là est très bien utilisée pour s'assurer que les athlètes puissent performer à leur meilleur de leur capacité sans être limités par les différents obstacles qui peuvent se dresser devant.
Ben, Dominique Tremblay, de toute façon, nous, on va se revoir la semaine prochaine. Puis pendant les Jeux, je crois que tu vas être présent plus souvent à l'émission ici au quotidien pour suivre un peu ce qui se passe. Alors, on a bien hâte de tout ça.
Ça me fait plaisir, puis ben, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Dominique, merci. Eh bien, le gouvernement du Québec fait face à un vent de critiques après sa décision d'abolir dès le 1er mars l'allocation destinée aux familles demandeuses d'asile ayant un enfant en situation de handicap. Comme le rapporte La Tribune, cette coupe de 413 $ par mois touche 263 familles et environ 330 enfants qui se retrouvent ainsi privés de soutiens essentiels pour l'achat de médicaments spécialisés ou de séances de réadaptation. Plusieurs organismes de défense des droits et des professionnels de la santé dénoncent ce qu'il qualifie de choix cruel et de manquement de grave envers des enfants déjà en situation de grande vulnérabilité. Alors que le gouvernement justifie cette mesure par une volonté de réduire la pression sur les services publics, la Commission des droits de la personne s'inquiète de ce recul qui compromet, selon elle, l'exercice des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Alors, l'allocation supprimée servait à couvrir des frais de santé au privé, comme l'ergothérapie ou l'orthophonie, puisque ces familles n'ont pas encore accès à la RAMQ. La décision a été annoncée à la fin de l'année 2025. Il n'y a pas eu de consultation préalable, dit-on, avec les milieux communautaires et le retrait représente une économie annuelle d'à peu près 1,3 million de dollars pour l'État québécois. Et le milieu musical canadien traverse une crise de santé mentale sans précédent, selon la première étude exhaustive pan-canadienne publiée par la firme Revelios. Ce portrait alarmant révèle que l'immense majorité des professionnels de l'industrie, qu'ils soient artistes ou travailleurs de l'ombre, éprouvent des difficultés psychologiques majeures. Au stress financier et à l'insécurité d'emploi s'ajoute une barrière géographique propre au Canada, où les coûts de tournées prohibitifs poussent les musiciens vers le marché des États-Unis, un exode rendu de plus en plus complexe par les exigences de visa depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, l'étude souligne également un manque criant de leadership de la part des organisations de l'industrie, alors que 95 % des répondants estiment que le milieu pourrait et devrait faire plus pour briser la stigmatisation et favoriser la prévention. Ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et pour cette semaine, puisque nous faisons une pause demain, vendredi. L'émission au quotidien sera de retour lundi. Je vais encore remplacer Hélène la semaine prochaine. Alors, on sera toujours là avec Mathieu Tessier, que je remercie à la mise en onde, et évidemment Hélène qui a contribué à la recherche de cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et la semaine prochaine, donc, je vous retrouve au quotidien et je vous retrouve aussi à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. D'ici là, passez un bon week-end.